C'est certain que Maduro actuellement cherche vraiment à renforcer les soutiens qui lui restent. Et Cuba, c'est évidemment un des principaux soutiens jusque-là, dans un contexte où effectivement il est isolé, ou en tout cas mis au ban par certains autres pays d'Amérique latine.
Cuba a un lien avec le Venezuela qui est d'ordre idéologique depuis la révolution bolivarienne, mais aussi économique. Il a besoin du pétrole.
Cuba, c'est un des pays de l'Alliance bolivarienne des peuples de notre Amérique, ALBA, donc une des alliances qui a été phare pendant un temps pour le chavisme. Et les échanges entre Caracas et La Havane sont vraiment importants, surtout pour La Havane finalement, puisque c'est l'accès au pétrole pas cher, voire gratuit, en tout cas à crédit, qui a permis à Cuba de faire redécoller son économie quand il n'y avait pas d'autres alliés potentiels. Donc aujourd'hui, l'espoir aussi, c'est qu'il y a un retour d'ascenseur de la part de Cuba sur le plan diplomatique envers le Venezuela, du fait de la crise interne à Caracas.
Oui, parce que c'est un peu le seul allié sous-régional de poids qui peut ouvrir des portes vers la Russie, peut-être encore, ou la Chine. Ou...
Dans les alliés régionaux, quand même, bon, c'est vraiment les pays de l'ALBA, hein, donc de l'alliance que j'ai citée. Donc il y a Cuba, la Bolivie, hein, Evo Morales est très actif quand même en soutien à Maduro
C'est vrai.
depuis plusieurs semaines. Et ensuite Équateur, mais un peu en retrait.
Qu'en est-il des États-Unis, là, ces derniers jours, le ton est monté à nouveau, l'opposition vénézuélienne appelait presque à l'intervention militaire. Les menaces verbales, en tout cas, se sont faites plus fortes.
Les déclarations de Trump, c'est vraiment un pas de plus, disons, dans l'agression verbale et en confirmant, disons, une position interventionniste. Mais là, on sait aussi que là, entre ce que dit Trump et ce que fera l'État industrialo-militaire états-unien, il y a souvent de la distance. C'est dans la continuité de la politique d'Obama, qui avait condamné Chavez et le Venezuela comme une atteinte à la sécurité démocratique des États-Unis, mais avec un ton beaucoup plus agressif, puisque là, maintenant, on parle de possibles interventions militaires dans le panel des actions possibles.
Mais est-ce que le Venezuela aujourd'hui, étant donné en plus l'affaiblissement de son président, est vraiment une priorité pour la défense américaine?
Alors, disons que ce n'est pas une priorité sur le plan de la sécurité ou militaire. Mais par contre, rappelons, hein, c'est la première réserve de pétrole du monde et c'est la seule réserve de pétrole à moins de 4 heures des États-Unis. C'est vraiment la réserve d'énergie proche. Mais pour l'instant, les relations économiques se maintiennent, hein, avec le Venezuela. C'est un des principaux fournisseurs des États-Unis et à l'inverse, hein, les États-Unis commercent, le Venezuela commerce énormément avec les États-Unis.
Et d'un point de vue idéologique, est-ce que l'ALBA, le bolivarisme font encore peur aux États-Unis ou est-ce que finalement c'est un échec de cette alternative?
Bah, disons que les États-Unis, eux, ils poussent, hein, leur avantage dans un contexte de crise de tous les progressismes latino-américains. Rappelons, hein, le coup d'État institutionnel au Brésil, la défaite électorale de Kirchner en Argentine. Donc il y a un retour des conservateurs, un retour des droites, et surtout un retour des gouvernements, disons, pro-états-uniens. Ce qui explique, par exemple, qu'au sein du marché commun du Sud, le Venezuela vient d'être exclu de cet accord, parce que la majeure partie des pays sont désormais hostiles à l'axe bolivarien et beaucoup plus alignés sur les États-Unis. Donc là, la tactique, elle est claire, c'est pousser l'avantage, soutenir les droites ou les oppositions au gouvernement considéré comme hostile aux États-Unis.
Les pratiques même de l'armée ou dans la gestion des gisements de pétrole ou des ressources naturelles est un peu à l'antithèse des idées qui étaient prônées au départ, non, au Venezuela?
Alors là aussi, oui, il y a des vraies, vraies contradictions, hein. Nicolas Maduro qui se dit anti-impérialiste, voire socialiste, si on voit les accords économiques des dernières périodes, ils sont vraiment ouverture de 14% du territoire aux
Les
multinationales,
multinationales,
autour de
oui.
l'arc de l'Orénoque. Donc c'est une politique extractiviste, pro-marché, hein, qui est mise en place par Maduro, malgré les discours anti-impérialistes.
Qu'en pense la population, pas forcément militante, mais simplement le Vénézuélien de base qui n'arrive pas à boucler les fins de mois, qui voit qu'il y a une prévarication, que la nourriture est distribuée par l'armée et que donc les soldats qui y procèdent ont plus facilement accès à la nourriture que les autres. Enfin, est-ce qu'il y a encore un soutien populaire pour ce régime ou pour Chavez?
C'est
Un
bien ça
soutien.
le problème essentiel. L'expérience Chavez, c'était avant tout une expérience nationale populaire, qui était vraiment basée sur, disons, le soutien des classes populaires. Et aujourd'hui, on voit que Nicolas Maduro a largement perdu ce soutien-là. Aujourd'hui, pour les classes populaires, elles se retrouvent un peu prises entre le marteau et l'enclume, hein. D'une part, le marteau, le gouvernement Maduro, qui est de plus en plus autoritaire, et l'enclume, l'opposition de la table unitaire démocratique qui prône la violence dans la rue, voire le coup d'État. Et pour les classes populaires, aujourd'hui, c'est terrible parce que c'est plutôt la crise économique, la violence dans la rue, avec peu d'alternatives, disons, démocratiques en perspective à court terme.
Franck Godichaud, je vous remercie.
Ben, merci à vous.